bière.
Là, il y a les Noirs, là-bas, il y a les Aveux chinois, derrière là-bas, il y a les Malgaches.
Celui que vous devez aller, vous, c'est... Oui. Ouais, c'est là, on est passé, on est rentré par là.
On est rentré ici, là. On est exactement là, actuellement.
D'accord.
On a devant nous, pas eu les Togo. Ouais.
Parce qu'on est perdu là sur le plan, Pascal Blanchard avec vous. Parce qu'on est dans un endroit qu'on connaît pas très bien. Déjà, on s'est fait ouvrir la porte. Mm-hmm. C'est un très joli espace vert dans un coin du bois de Vincennes.
7 hectares à la lisière, en fait, de Vincennes, du bois de Vincennes, et qui touche la municipalité de Nogent. Pour ceux qui connaissent un peu le bois de Vincennes, c'est une partie qui est peu connue, puisqu'en fait, c'est une partie qui n'est pas ouverte au public, sauf à des horaires assez précis, et le week-end maintenant.
Oui, le week-end après-midi, voilà. Le samedi et le dimanche après-midi.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent le week-end, je crois qu'il est peu connu. En fait, donc, il porte le nom de jardin tropical. Il a eu à une époque l'appellation de jardin colonial, c'était on va dire avant la Première Guerre mondiale, mais il a toujours été spécialisé dans tout ce qu'on peut appeler étude des produits à caractère tropicaux, puisque vous voyez d'ailleurs derrière nous, il y a encore des serres d'époque qui datent, si la mémoire est bonne, de 1899, puisque le jardin est ouvert à la fin du 19e. Mais en fait, ce qui va lui donner à la fois son caractère historique, dont on peut dire que le temps s'est arrêté ici, c'est qu'en 1907 va avoir lieu ici une grande exposition coloniale, la première grande exposition coloniale parisienne, même si deux ans avant il y avait déjà eu une première tentative, mais qui avait été plutôt un échec. Celle de 1907 va bien marcher, puisque on table aujourd'hui dans les à peu près sur 1 million de visiteurs, après qu'ils sont venus ici. J'essayais quand même d'imaginer qu'ici, il y avait des éléphants. Il y avait le village cambodgien, le village laotien, il y avait ces Touaregs qui, chaque jour, toutes les après-midi, à 15-16 heures, se mettaient en tenue, ces hommes bleus du désert, comme on disait à l'époque, ils avaient des grandes lances.
C'est-à-dire qu'on avait, tout amené sur place.
Exactement, et y compris des bâtiments dont on va aller tout à l'heure se promener dans les, à l'intérieur, derrière les arbres qu'on voit, puisqu'il y avait également un pavillon de la Tunisie, un pavillon du Maroc, qui va avoir ce particularisme assez unique et peu connu, de servir de mosquée. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers lieux de prière qui va, au départ, il est créé, je veux dire, d'une certaine manière assez anecdotique pour les visiteurs. C'était une manière de reconstituer l'islam au cœur de Paris, donc il se devait d'avoir cet espace ni religieux ni civil, mais va devenir réellement une mosquée à la suite de l'exposition. C'est-à-dire qu'indirectement, on a affaire à la première mosquée ici, construite donc à Paris déjà et en France, est ici. Et elle existe toujours. Bien sûr, elle a fonctionné quasi jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans le sens où il n'y avait pas d'autres lieux de prière dans Paris. Et les deux imams vont être nommés dans ce lieu, qui également aura servi, sous la guerre 14-18, d'hôpital pour les blessés du Maghreb, blessés au front, qui venaient un peu, je dirais, en repos à l'arrière des lignes pendant tout le conflit de 14-18. Et je crois que jusqu'à 22-23, les deux imams vont officier ici et vont faire pression sur les autorités parisiennes pour réclamer une autre mosquée, qui viendra la grande mosquée de Paris, qui sera construite en 26. Mais donc, c'est resté pendant de nombreuses années l'unique lieu de prière de Paris à l'intérieur de ce jardin.